Il m'arrive souvent de tomber par hasard dans ma bibliothèque musicale sur un extrait d'une précédente émission qu'on avait faite. En fait, c'est un bout d'enregistrement de notre collègue Chloé Sandervost qu'on a un petit peu utilisé, mais on ne l'a pas passé au complet. Et à chaque fois que je tombe dessus, en fait, son nom, c'est simplement 4 dans ma bibliothèque musicale. Donc, à chaque fois, je me dis, faudrait bien que je le renomme, nanana, tout ça. Et finalement, ben, je finis par écouter l'extrait au complet et j'oublie tout le temps que finalement, fallait que je le change de nom. J'avais envie de le repartager avec vous aujourd'hui. C'est la magnificence d'un bébé qui dort. Vous écoutez Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, on parle de sommeil.
À part les somnifères, avez-vous essayé d'autres trucs, la méditation, le yoga, des choses comme ça? Compter des moutons?
La seule chose que j'ai pas essayé encore, c'est le marteau. Oui, le mille, la tisane au millepertuis, qui est absolument effect, d'ailleurs. Oui, la méditation, le yoga, j'ai essayé ça. Tu sais, fixer un mur, là, jusqu'à en loucher, oui, j'ai essayé. Qu'est-ce que j'ai essayé aussi? Marcher, tu sais, beaucoup. Tu sais, marcher une bonne heure, des fois, le soir, là. Tu sais, essayer de fatiguer son corps davantage. Ça m'a pas vraiment aidé. Il n'y a pas de solution miracle. Même, je pense que si je faisais 6 heures de sport par jour, de toute façon, j'ai pas le temps, je pense que ça changerait rien. J'ai l'impression que je suis pas née dans le bon décalage horaire.
Manon Dumais est journaliste, critique de cinéma et insomniaque.
Manon Dumais, vous dites que vous faites de l'insomnie depuis la maternelle, ça fait vraiment longtemps.
Ben c'est ça, c'est à la maternelle que j'ai découvert que j'en faisais, parce qu'avant la maternelle, j'avais pas à me réveiller à une heure spécifique. Donc, je me couchais, je m'endormais très tard. Mes parents étaient un petit peu délinquants. À l'époque, je suis pas jeune, il y avait Rue des Pignons qui passait assez tard et j'étais « Maman, est-ce que je peux écouter Rue des Pignons? » Donc, j'écoutais Rue des Pignons. Enfin, je me couchais après. Et donc, le lendemain, je pouvais me lever, je sais pas, à 9h, 10h, 11h. Et donc, à la maternelle, quand il faut être à l'école à 8h, 8h30, il faut se lever une heure plus tôt. Donc, 7h du matin, ça me paraissait immonde. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais de la difficulté. C'est que moi, quand je me couche, ça me prend environ un bon gros 2 heures pour m'endormir. Et donc, comme tout le monde normal, travaille à 9h, 8h, il faut qu'on se lève tôt. Alors, c'est très difficile pour moi de fitter dans la société. Heureusement, les visionnements de presse, les projections de presse sont à 10h le matin, ce qui est pour moi une heure raisonnable. À 9h, je trouverais ça un peu difficile. C'est sûr qu'à la longue, on s'habitue, notre corps s'y fait. Comme moi, ça fait pas loin de 40 ans que je vis avec cette insomnie-là. J'en suis pas fière, mais tu sais, il y en a qui me disent « Oh, wow, comment tu fais? » Mais bon, j'ai pas le choix. Je pourrais prendre des somnifères, mais c'est que j'ai peur de tomber dans un cycle parce que j'ai essayé, je confesse. J'ai eu une fois une prescription de somnifères et le médecin m'avait dit c'est un léger somnifère, mais même là, on peut devenir accro, là, enfin, s'habituer à ça. Et il m'avait dit ce somnifère-là va vous endormir en une demi-heure. Je me dis, oh, c'est génial, ça. C'est génial. Parce que moi, je rêve du jour où je vais pouvoir toucher l'oreiller, pouf, m'endormir. Mais ça, les rares fois que ça m'est arrivé dans ma vie, c'est parce que j'étais à l'article à mort, là, de bronchite ou grosse grippe de gars. Mais donc, une fois dans ma vie, il y a peut-être une dizaine d'années, je m'étais fait prescrire des médicaments, des somnifères parce que j'en pouvais plus. Et donc, à ce moment-là, mon travail était beaucoup plus stressant. Ben, je commençais, donc on est moins sûr de soi. Donc, le petit hamster roule pendant toute la nuit. Et donc, les fameux somnifères qui devaient m'endormir au bout d'une demi-heure, ben ça prenait à peu près 2-3 heures. Donc, je me dis, ben là, c'est la routine qui continue. Et donc, si je les prenais à 10 heures, je m'endormais autour de minuit. Et à 5 heures, je me réveillais. Alors que j'aurais bien aimé pouvoir dormir 7-8 heures. Ça, c'est un de mes grands fantasmes dans la vie, dormir 7-8 heures. Parce qu'en moyenne, je dirais que je dors 5 heures. Ce qui est pour moi convenable. En bas de 5 heures, c'est difficile. Quand je dors 3 heures, là, si je fais dans une semaine 2-3 nuits de 3 heures, là, je suis cernée jusqu'aux genoux. Là. Puis disons qu'il faut vraiment, quasiment que je me pince pour garder mon attention. Et donc, c'est ça. Je me disais 5 heures. J'avais l'impression qu'avec ou sans somnifères, c'était la même chose. Alors, j'ai lâché ça parce que je me suis dit, si je demande des somnifères plus forts, mon corps va s'habituer. Je vais toujours avoir besoin de somnifères de plus en plus forts. Et c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais avoir besoin de pilules pour me réveiller. Alors, je me suis dit, ben là, si j'entre là-dedans, je vais être tout le temps sur les pilules. J'ai pas le goût. Alors, j'aime mieux être cernée que sur les pilules. Voilà.
Le métier vous amène à voyager, aller dans des festivals. J'imagine que le décalage horaire, ça exacerbe l'insomnie.
Ah, c'est épouvantable, c'est épouvantable. J'arrive pas à dormir dans l'avion ou presque. Et même, souvent, c'est en Europe, donc c'est soit en France, en Allemagne. Donc, c'est 6 heures de décalage. Et donc, je vais faire exprès, je me lève à 6 heures le matin, 5-6 heures le matin, puis je vais écrire tôt... les textes que j'ai à faire, puis je vais me faire toute la journée à faire ma valise, les dernières courses, ça, tu sais, tout pour me fatiguer, là. Ben je dors pas plus. Fait que je prends l'avion, puis au moment où je serais prête à m'endormir, là, je le sens, là, les yeux crépitent tellement je suis fatiguée, j'arrive à Paris ou à Berlin ou à Karlovy-Vary, peu importe le festival. Et là, ben le festival commence, et puis... Je suis déjà un peu, genre beaucoup de difficultés à rattraper le temps. Parfois, je vais faire une sieste. Ça, par exemple, je vais arriver entre deux films, je vais faire une sieste d'une heure et ça va me faire du bien. Mais je me rappelle, à Cannes, ça m'est arrivé à quelques reprises. Le film du matin, je le manquais parce que plutôt que de dormir pendant un film, je préfère dormir 2 heures dans un lit puis ensuite rattraper le film le soir parce que sinon, je me dis, de toute façon, c'est très inconfortable. Et puis, dormir pendant un film, il y a quelque chose de très irrespectueux. Quoique, bon, dans un festival, c'est pas rare de voir des gens dormir ou plutôt les entendre dormir.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous endormir pendant un film?
Ah, bien sûr, c'est arrivé. Et puis, c'est quand ça m'arrive à la maison, ça, c'est le fun, j'ai charculé. Mais c'est sûr que dans un festival, tu dis, oh boy, là, OK, je viens de manquer 5 minutes, moi, là, je pense. Parce que des fois, ça peut être une absence de 30 secondes. On ferme les yeux, on se rend compte qu'on vient de manquer 3 répliques importantes. Mais à ce moment-là, je me dis, bah, c'est pas grave, c'est un festival. Quand le film va sortir en salle, j'irai le revoir. Fait que c'est pour ça que je m'en fais pas trop avec ça. Puis quand je regarde autour de moi, il y en a beaucoup qui dorment. Hein. Puis même, je sais pas, c'est dans un documentaire de Maria de Medeiros. Comment ça s'appelait? Je t'aime moi non plus, je pense. C'était, elle interviewait plusieurs critiques de cinéma et de réalisateurs. C'était sur le rapport entre la critique et le réalisateur. Je tergiverse. Et puis, un critique disait que dans une de ses critiques, il avait décrit une scène qu'il trouvait absolument formidable pour se rendre compte plus tard que la scène, il l'avait rêvée. Je lui dis ça m'est pas arrivé au moins. Quand je parle d'une scène, je m'assure qu'elle existe, qu'elle n'est pas dans ma tête. Un de mes amis, quand j'étais à l'université, j'ai un de mes amis qui s'était rendu compte qu'il y a des matins, j'étais plus cernée que d'autres. Et je lui avais dit que j'étais insomniaque. Et il m'avait dit, selon Freud, les insomniaques, c'est des gens qui sont demeurés très près de l'enfance. Et quand on est enfant, on ne veut jamais aller se coucher. Donc, j'étais cet enfant-là. Et encore aujourd'hui, s'il y a une chose que j'haïs, c'est bien quand on me dit, il faudrait peut-être aller se coucher. Moi, je n'ai pas le goût. J'ai le goût de continuer à voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et donc, c'est ça, c'est que c'est une espèce de curiosité. C'est que les enfants ne veulent pas aller se coucher parce qu'ils s'imaginent que la nuit est leur réserve plein de mystères. Et fait que c'est ça, je me dis, c'est peut-être pour ça que je suis encore demeurée près de l'enfance. Puis, veux pas, je suis critique de films. Et on dit tout le temps que pour aimer le cinéma, ça prend un côté délinquant, un côté enfant, parce que qu'est-ce que c'est que le cinéma, sinon se faire raconter des histoires. Donc, moi, j'aime encore me faire raconter des histoires. Et j'imagine que la nuit, il y a des monstres, il y a des fantômes, je sais pas quoi, des princes, peu importe.
Je passe encore une nuit blanche. Une traversée de la Manche, je compte les moutons qui s'y baignent, me cognent au ding-dong de Big Ben. Je passe encore une nuit blanche, une heure sur le dos, deux sur la tranche. J'essaie un rêve, puis le rature passe par toutes les températures. Mes yeux ouverts, cartographie, grâce aux diodes de la chaîne IFI. La moindre trace sur le mur que laissent les défauts de peinture. Et j'ai déjà pu répertorier une libellule de Fox Terrier, un truc qui ressemble à la France. Il manque juste un bout de Provence. Et toi, tu dors, conquistador, dans ton Amérique, on s'endort si vite. J'aimerais te greffer les bras de Morphée pour m'y blottir et enfin dormir. Je passe encore une nuit blanche, et toi dans ta bulle tu scies des branches. Ce n'est plus une bande dessinée, mais c'est une forêt que t'as dessinée. J'ai tout fait pour percer ta bulle, une quinte de tout que je simule. Mais pour t'empêcher de me fausser compagnie, je peux me brosser. Et demain tu me feras l'affront, la marque d'oreiller sur le front. Tu diras culot inouï, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. À l'heure de mettre pied à terre, j'aurai sous les yeux de cratère. Il faut croire que mon sommeil est enchui avec le soleil. Et toi, tu dors, conquistador, dans ton Amérique, on s'endort si vite. J'aimerais te greffer les bras de Morphée pour m'y blottir et enfin dormir. Mais toi, tu dors, conquistador, dans ton Amérique, on s'endort si vite. J'aimerais te greffer les bras de Morphée pour m'y blottir et enfin dormir.
Ce qu'on appelle la narcolepsie, c'est un trouble qui provoque des accès subis et répétés de sommeil. Dans le fond, c'est un peu s'endormir à n'importe quel moment, n'importe où, alors que c'est pas nécessairement approprié. Par exemple, quand une personne atteinte de ce trouble-là a une grosse émotion, à ce moment-là, tous les muscles de son corps vont se ramollir jusqu'à perdre parfois tout leur tonus. Ce trouble-là, que visiblement Madame Dumais qu'on vient d'entendre n'a pas, se développe généralement chez les jeunes adultes, puis souvent c'est des hommes. Mais ça peut aussi arriver un peu plus tôt, comme c'est le cas, en fait c'est pas mal le cas, d'Eric Evans, que vous connaissez peut-être comme étant dans le groupe de musique Canaille, qui a ce genre de trouble-là depuis qu'il est tout petit. Et bien qu'il n'ait jamais été diagnostiqué, je pense qu'on peut quand même affirmer que son comportement de sommeil est plutôt atypique.
En fait, j'ai toujours eu une espèce de facilité un petit peu grave à m'endormir un peu partout. Il m'est arrivé plein de belles histoires dans ma vie, puis des fois, il y a des conditions qui rendent que je suis plus apte à m'endormir, mais en fait, si je suis pas concentré pendant plus que 5 minutes, ben, je risque de m'endormir, peu importe l'heure de la journée ou l'endroit où est-ce que je suis. Je me suis déjà endormi, j'étais en vélo, c'était en plein jour, j'étais complètement à jeun, puis je trouvais que la route était longue, fait que j'ai décidé de faire une petite sieste en vélo. Ça a pas été super, parce que je me suis ramassé à descendre dans un fossé, mais fait que ça m'a réveillé un petit peu, parce que ça shakait. Mais ouais, c'était une des fois qui était weird. Sinon, je pourrais dire que toutes mes études au complet, je pense qu'il n'y a pas un cours que j'ai pas dormi. Comme il n'y a aucune job que je me rappelle que je n'ai pas dormi sur la job. Ça fait que j'ai jamais eu de trouble avec ça, sauf que Sauf qu'admettons qu'il y a certaines conditions plus favorables à mon sommeil, comme admettons, c'est ça, tu sais, fin de party, des fois, c'est facile de me retrouver dans un coin. Mais ce qui est le plus rough, des fois, c'est que le monde essaie de me réveiller, puis des fois, ça en prend beaucoup. J'ai déjà du monde qui a essayé de me réveiller pendant au moins 20 minutes, puis ça ne marchait pas. Ou des histoires que je m'endors dans un taxi aussi. Fait que, à un moment donné, je me réveille par moi-même, puis il y a dépassé de vraiment genre une vingtaine de rues chez nous, parce que je trouvais que j'avais l'air confortable. Des exemples comme ça.
Sur scène, tu t'endors quand même pas?
Ben, il y a une fois que ça a failli arriver, mais c'est parce que là, faut dire qu'on était un petit peu en boisson aussi. Puis j'ai comme décidé de lâcher mon instrument, de m'asseoir sur le stage. Puis en fait, je suis même pas sûr si je me suis pas endormi, mais moi, sur scène, généralement, j'essaie de rester droite.
Depuis quand t'as découvert ça?
Ben, je pense que ça a toujours été comme ça. Je me rappelle quand j'étais super jeune, moindrement qu'on faisait une ride de char, ben c'est sûr que j'avais le temps de m'endormir dedans. Puis chaque fois que je prenais l'autobus aussi, en fait, je te dis vraiment partout, tout le temps, là, ça m'arrive. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que tu sais, des fois je suis complètement brûlé, puis là je sais que j'ai un 10 minutes de taxi à faire. Fait que là, je me contiens, je dis ok, je vais faire une sieste, je m'accote 2 minutes, puis je m'endors, puis je me réveille, puis après ça, je suis en pleine forme. Fait que c'est quand même un sommeil profond et réparateur. Fait que
c'est un avantage ou un désavantage?
Ben j'ai l'avantage de pas être je suis pas insomniaque du tout. Je pense que ça m'arrive une fois par année maximum de pas être capable de trouver le sommeil, mais ça fait que ça a cet avantage-là. Puis ça a l'avantage aussi que c'est ça, c'est un bon sommeil réparateur. Mais le désavantage, c'est que des fois je manque pas mal les fins de soirée, ou des fois je m'endors dans des moments qui sont pas super appropriés. Moi j'aime ça quand même un peu. Faut dormir.
Un moment embarrassant avec une blonde peut-être ou
non, pas si pire que ça, mais je me rappelle une fois, ben je sortais avec une fille, puis avant de se coucher, on décide de s'engueuler, une petite chicane avant de dormir. Puis là, elle est en train de dire son point, puis elle dit son point, puis finalement, je me suis réveillé le lendemain, fait que j'ai jamais su de quoi qu'elle parlait, puis fait que je m'en suis sauvé comme ça, mais elle était pas trop fière de moi. Mais tu crois pas sur quelqu'un qui dort, là, c'est pas poli.
Nadine!
Quoi?
Hey, Nadine!
Mathieu, Chris, qu'est-ce que tu fais là? Je suis où? Qu'est-ce qui se passe?
Ben, j'ai fini de dormir.
Hein? Mais il est 4h du matin, fuck, Mathieu!
Ben, c'est ça, je me suis couché à 11h, là, il est 4h du matin, j'ai mon 5h de dodo, j'ai fini de dormir.
Hein? T'es comme Grégory Charles, mais pas débrouillard, pis t'as jamais habité dans une commune avec Louise Deschâtelet pis Francis Reddy, pis... Tu coaches pas une chorale, mais comment t'as fait pour rentrer chez nous?
Nah, c'est pas important, ça. T'écouteras ma chronique dans l'émission sur le mot serrure. Mais là, comme la nuit est finie, je me suis dit qu'on pourrait faire notre chronique.
OK, là, tu tombes vraiment mal, là. Je suis vraiment fatiguée ces temps-ci, là. Ça m'est trop léger.
Mais léger comment? Comme léger, fluffy comme un dessert qui goûte pas le sucre, mais qui a bien du beurre dedans? Ou léger, oh, je mange une salade verte?
Non, léger comme je me réveille à rien, tu sais, l'autre nuit mon chum ronflait hyper fort puis ça m'a réveillé.
Mais t'as même pas de chum.
Je sais, c'était mon voisin finalement. Je peux-tu te dire que je lui ai demandé de sortir de mon lit assez vite, mais là j'ai essayé les somnifères puis les bouchons d'oreilles.
Puis
ben avec les somnifères, j'avais peur de pas me réveiller si le towing passait pis faisait
T'as même pas de char.
Ouais, mais j'aime ça savoir quel voisin dort trop dur pour aller chercher son char le matin, satisfaction de fille au sommeil léger. Puis les bouchons d'oreilles, ben j'entendais pas aussi bien le gars sacré quand son char se faisait remorquer. Fait que c'était toujours pas aussi satisfaisant. Fait que j'ai fait comme Tintin.
Tu t'es mis à fumer de l'opium?
Ouais, mais ça n'a pas rapport. Non, à chaque soir, j'imbibais un linge de chloroforme que je me mettais dans la face en ayant un l'air surpris.
Sapristi, Nadine!
Mais tu sais, à force de faire comme Tintin, j'ai eu peur d'adopter des expressions comme « sapristi »,« zut » ou « mille sabords ». Puis tabarnak, j'aime ça sacré, moi. Il y a pas juste que j'ai le sommeil léger, là. Il y a aussi que je fais du somnambulisme. Puis c'est pas posant se réveiller dans le Goliath à la ronde avec des factures de kiosque de tir à carabine puis de trois barbes à papa d'un poche. Hey, l'autre fois, je me suis réveillée, j'avais un cadavre assis à côté de moi. Heureusement que j'avais déjà vu le film « Weekend chez Bernie ». Je savais quoi faire.
Tu l'as promené dans un party en faisant semblant qu'il était vivant?
Non. J'ai appelé à la morgue, là, parce que « Weekend chez Bernie », c'est vraiment un film mauvais. Si au moins je pouvais faire de quoi d'utile quand je suis somnambule, genre ma vaisselle, prendre ma douche, faire du lavage, appeler ma mère. Toi, Mathieu, homme qui ne dort presque pas, qu'est-ce que tu fais de tout le temps que t'as de plus?
Généralement, je regarde des films poches qui passent tard à TV, je flagosse sur Internet jusqu'à 3h du matin, ou bien j'attends que le reste du monde se réveille le matin.
Wow! Moyen gaspillage, là! Ça te tenterait pas de faire comme Grégory Charles puis de devenir super talentueux?
Check bien, là. De tous les gars qui sont passés dans les petits chanteurs du Mont-Royal, il y en a combien qui, 10 ans plus tard, peuvent encore chanter aigu? Pas un Chris. Fait que si tu veux vraiment parler de temps perdu, là, parle à Grégory Charles.
OK, OK. Mais moi, avec 3 heures de plus par nuit, là, j'apprendrais le mandarin, je ferais une thèse sur l'importance du jargon limousin dans la littérature haute-savoirienne, je ferais ma propre farine sans gluten, je créerais mon propre prix de la paix, je sauverais
non,
le monde.
Non, tu ferais comme tout le monde, tu flagosserais sur Internet.
Je changerais le monde, mais sur Facebook, un statut à la fois. Tu sais, l'autre fois, je rêvais que mes statuts Facebook pognaient plus pantoute.
Mais voyons donc, t'es celle qui publie « Je mange une pomme » pis qu'il y a 15 j'aime.
Je sais, mais j'ai beau me dire que c'est un rêve, ça arrive des fois des rêves prémonitoires.
Ah, ça me fait penser. L'autre fois, je parlais piscine hors terre avec mon collègue au bureau, pis tu sais, l'impression de déjà-vu.
Ah, ta gueule! Non, moi, je te parle de rêves, là, de vrais rêves, là. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, pis t'es sûr d'une décision, que tu vas aller manger chez ta mère puis qu'elle aura fait sa fameuse sauce à spag, que tu sais que tu vas pitcher un concept au travail puis que ça va marcher.
Ah, ça me fait penser, travail. C'est comme les nuits où tu rêves que tu fais la même chose qu'au travail, justement. Fait qu'au lieu de pouvoir voler, de visiter des pays magiques, pouvoir reparler à ta grand-mère incarnée en licorne, ben tu branches des factures. Tu sais, une autre nuit de perdu. T'sais, j'aurais pu faire un rêve cochon, mais non. J'ai fait la même affaire que le reste de la semaine. Remplir puis corriger des petites annonces « Homme cherche homme » dans le journal. Puis en plus, j'étais même pas payé.
Ben ça, c'est un problème seulement quand t'as une job plate, là. Tu sais, si ta job est super excitante, là, genre musicien dans les Beatles, là, c'est pas mal moins pire de rêver à sa job. Tu sais que la mélodie de Yesterday, Paul McCartney, l'a d'abord composée dans un rêve.
Ah ouais? Ben tant mieux pour lui, mais il aurait bien pu mourir dans son sommeil à la place. Ça nous aurait évité Hey Joe d'une couple d'années plus tard. Hey, reviens-en, ça fait 5 minutes, ta chante. Un cauchemar!
C'est vrai, même si on est des adultes, là, ça nous arrive quand même des nuits de faire des cauchemars.
Ben moi, l'autre fois, je rêvais que je perdais la garde de ma fille.
Fif! Non, moi, je te parle de vrais cauchemars, là. Zombies avec tronçonneuse, se faire écarteler, être rôle secondaire dans le film Nitro. Genre, l'autre nuit, j'ai rêvé que je mangeais de l'hostie de gâteau aux fruits. Écoute, le soir d'après, je voulais plus me rendormir, de peur d'y rêver encore. Fait que pour exorciser mon cauchemar, j'ai décidé de l'analyser.
Ah ouais, c'est bon ça, analyser ses rêves. Puis qu'est-ce que t'as découvert? As-tu découvert que ton complexe d'Édipe est pas si réglé que ça, considérant que ta mère a une forte personnalité?
Hey, check, on en reparlera dans une autre chronique, là. Non, ce que j'ai découvert, c'est une méthode franchement facile pour analyser ses rêves. On est tout ce qu'on rêve.
On est... tout ce qu'on rêve, dans le genre que si moi je rêve que je perds la garde de ma fille, dans le fond, je rêve que je perds ma propre garde.
Fif. Exactement. Fait que je suis le style gâteau aux fruits. Je sais, ça m'écœure tellement. Je me sens morte, abandonnée sur un comptoir à pourrir, à un anniversaire trop intense pendant lequel je me serais fait pitcher des œufs pis de la farine après un lendemain de brosse de brandy.
Oh, hey, tu te rappelles bien de la recette.
Ouais, merci. Mais c'est là que j'ai compris que les rêves de sorcières qui me kidnappaient quand j'étais petite, là, c'était toujours moins pire que de rêver que je mangeais de l'hostie de gâteau aux fruits. à rêver que ton ex sort avec ta meilleure amie, puis que ton ex c'est Éric Lapointe, puis que ta meilleure amie c'est Ima, c'est toujours moins pire que de rêver que tu manges de l'hostie de gâteau aux fruits.
Ah, mais pire que ça, non? Rêver que t'as plus de bière.
Quoi? Il y a plus de bière?
Calme-toi, Nadine, il est juste 4h07 du matin. Non, en fait, il y a plus de café.
Quoi?
Ben, rendors-toi, là. Je vais aller chercher du café. Après ça, on va pouvoir commencer à dormir en cuillère.
Quoi? Tu ronfles-tu?
Toujours dans le champ lexical, l'émission qui, cette semaine, tourne autour du mot « sommeil ». Le dodo, le repos, la bonne nuit de sommeil, une nuit dont on peut décider d'émerger avec le son d'un coq, si on est vraiment grano, le dring d'un cadran, si on est traditionnel, ou la voix d'un animateur de radio, si on aime commencer sa journée bien informée. Et il y a ceux, probablement des psychopathes en puissance, qui préfèrent le son du « buzzer ». Ni, 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 ni. Eh bien, tant pis pour eux. Si vous passez une mauvaise journée, vous avez vraiment couru après.
Le bouton snooze que vous venez d'entendre appuyer sur un cadran digital de Marc Spartus des années 80 vient de rallonger mon sommeil de 9 minutes très exactement. C'est la durée standard pour tous les boutons snooze de tous les réveils matins. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que c'était 9 minutes. Eh bien, il y a plusieurs théories qui sont avancées pour ça. En fait, la première alarme avec un bouton snooze, c'est en 1956. C'était une horloge, donc un cadran traditionnel, donc pas numérique. Et il y avait une petite engrenage donc qui passait à côté de la bande des 10 minutes pour justement s'enclencher là-dedans et pouvoir laisser aux gens qui dorment un petit extra supplémentaire de 9 minutes. Donc, c'était quelque part entre 9 et 10 minutes. Et lorsque les gens ont commencé à faire des cadrans numériques, ils ont décidé de s'inspirer, en fait, de ce qui se passait avec les cadrans réguliers. Et ça a donc donné le snooze de 9 minutes tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça peut causer vraiment plus de problèmes parce que 9 minutes, c'est assez long parfois pour se rendormir et retourner dans un sommeil qu'on dit profond. Donc, ça va être encore plus difficile de se réveiller Une fois le snooze enclenché, une fois ce cycle infernal du matin qui est de snoozer, de se réveiller et de se re-snoozer encore, en moyenne, selon le USA Today, un tiers des Nord-Américains adultes utilisent le snooze en moyenne 3 fois par matin. Donc, ça rajoute presque une demi-heure. Les gens qui s'occupent de techniques de sommeil suggèrent plutôt de mettre son cadran une demi-heure plus tard et de se réveiller plus frais et plus dispo pour sa journée de travail. Étrangement, les personnes les plus âgées, donc à 65 ans et plus, ne snooze en moyenne à 10% en fait. Et sinon, c'est les 25 à 34 ans qui snooze le plus à 57% par jour, donc qui utilisent le bouton snooze qui est de 9 minutes pour une raison un peu obscure, mais qui semble-t-il aurait des liens avec l'horlogerie ancienne.
Avancer plus vite que ton corps, ta tête te penche vers l'avant, tes pieds dans un sable mouvant, comme si tes yeux s'étaient éteints 1000 ans avant leur temps. Tu restes la bouche grande ouverte face au vent.
Et la tempête arrive, les oiseaux passent
dans
la
ville. Ton anniversaire ne peut pas se fêter un jour comme celui-là.
Et la tempête arrive, les oiseaux passent dans la ville.
Le compte à rebours se fera un autre jour, un autre mois. Mais tu ne dois pas t'en faire. Si le bonheur ne veut pas de toi, si chaque fois que tu ouvres les bras, tout semble s'écrouler autour de toi, non, tu ne dois pas t'en faire. Justice tôt ou tard se fera, puis un jour le soleil rebrillera pour toi. Vers l'avant, qui est dans un sable mouvant, comme si tes yeux s'étaient éteints 1000 ans avant leur temps. Tu restes la bouche grande ouverte face au vent.
Tout le monde sait ce que c'est un capteur de rêve. C'est un truc amérindien, rond, où s'entrelacent des lanières de cuir et auquel est attaché quelques plumes. Généralement, le capteur de rêve vient d'un magasin de souvenirs, il est probablement fabriqué en Chine et il est installé la plupart du temps dans des endroits où il y a bien peu de rêves à capter. Intérieur de voiture, fenêtre de salon, vestibule.
Il existe plusieurs légendes à propos des capteurs de rêve. La plupart du temps, c'est une araignée qui enseigne à une vieille femme les secrets de la confection de sa toile. Le capteur de rêves veille ensuite sur le sommeil des humains, attrape les mauvais rêves pour les brûler au soleil du matin. Mathieu Bonsawin-Gauthier est guide-interprète au musée des Abénakis à Odanak, près de Trois-Rivières.
Puis la plupart des légendes qui racontent l'origine du capteur de rêve, ça inclut toujours une araignée et sa toile. C'est en quelque sorte ça qu'on essaie de reproduire avec un capteur de rêve, c'est la toile de l'araignée. C'est des objets qui ont été reproduits de choses qui existaient déjà dans la nature. Là. Comme les raquettes, ben ça a été inventé selon par exemple les pattes d'un oiseau ou d'un animal qui était capable de supporter sur la neige. Donc.
Le Dreamcatcher est basé vraiment dans l'idéologie que les Premières Nations, on a, c'est que le rêve est très important. C'est pour nous un mode de communication avec le monde des esprits. Donc,
Mélissa Molin-Dupuis, Innu originaire des Kwanichit sur la Côte-Nord, elle travaille au Jardin des Premières Nations, en plus d'être artiste multidisciplinaire, comédienne et co-organisatrice du mouvement Idle No More à Montréal.
Il y a eu un courant qui s'appelle le pan-indianisme, qui a commencé dans les années 70. Et là, il y a des traditions qui se sont, comme un peu, dans le fond, étendues partout dans les communautés autochtones. Et le capteur de rêve a fait partie de ce courant de pan-indianisme. C'est comme si on donnait des traditions à toutes les nations autochtones au monde. Fait que le capteur de rêve, je dirais la roue de médecine, c'est tous des concepts qui viennent un peu d'un peu plus vers l'ouest, c'est-à-dire des nations Ojibwe. Et moi, quand j'étais jeune, on nous montrait pas à faire les capteurs de rêve. Mais quand c'est devenu à la mode, là, puis tout le monde faisait les capteurs de rêve, ben dans les communautés, comme le capteur de rêve rentrait dans notre idéologie de l'importance du rêve, ben le monde se sont mis à en faire, puis on montrait aux enfants. Maintenant, tout le monde peut faire les capteurs de rêve dans les communautés.
En fait, c'est un objet qui, à la base, oui, existait déjà. Mais en fait, c'est devenu plus un objet folklorique, si je pourrais dire, actuellement. Donc, les gens l'accrochent un peu partout, comme dans les voitures, les rétroviseurs, puis tout ça. Là.
Finalement, le capteur de rêve, aujourd'hui, ça prend une place plus importante que traditionnellement. En tout cas, dans le commerce ou dans les milieux touristiques, ça prend plus de place.
Probablement, oui, j'imagine, parce que c'est... Ben, personnellement, ici, au musée des Abénakis, on a une boutique, puis je vous dirais que oui, on en vend... On vend beaucoup de capteurs de rêve parce que puis les gens l'achètent, mais ils demandent aussi c'est quoi l'origine, c'est quoi la signification du capteur de rêve. C'est une question d'intérêt aussi. C'est facile à transporter aussi dans les bagages. Donc les Européens peut-être qui préfèrent cet objet-là plutôt qu'un objet plus fragile à transporter puis à ramener chez eux. Là.
D'un côté, on est pragmatique, c'est beau, c'est facile à transporter. En plus, ça correspond à l'image qu'on se fait des Amérindiens. De l'autre côté, les Amérindiens saisissent d'un symbole qui n'était pas nécessairement le leur, qui cadre tout de même avec leur culture, mais ils l'accommodent au goût des touristes.
Dans le fond, moi, j'encourage le monde à les acheter parce que ça reste quand même ce qu'on appelle l'adaptation culturelle. Et là, je pense aussi quand on a été mis en réserve, là, puis que notre culture nous a été, dans le fond, enlevée, et qu'on n'a pas pu aller chasser ni pêcher, les femmes se sont mises à adapter l'artisanat traditionnel au goût des femmes victoriennes à l'époque, pour pouvoir vendre l'artisanat. Fait qu'on a toujours adapté notre artisanat au goût du touriste, du visiteur, parce que justement, c'est une question de survie. Et beaucoup de gens qui font de l'artisanat dans les communautés en vie. Tu sais, je connais des grands-mères qui vont travailler tout l'hiver puis vont vendre leur artisanat en été. Puis souvent, c'est vendu à des prix mongols. Tu te souviens que tu payes un aîné une pièce ou deux de l'heure pour le travail des mocassins ou des capteurs ou... Alors, parce que le monde sont habitués à ce que le travail du Made in China coûte une pièce. Hein? Fait que dans le fond, c'est de respecter le travail des artisans parce que s'ils font les capteurs de rêve, c'est parce que justement, ils ont à manger eux autres aussi. Puis, il n'y a tellement pas d'emploi dans les communautés, fait que l'artisanat doit être reconnu comme une source de revenus sérieux pour les Premières Nations. Là. Fait qu'il ne faut pas aller bitcher les capteurs de rêve dans les réserves parce que justement, c'est une des raisons pour qu'on les fait, c'est pour pouvoir vivre puis bien vivre. Hein?
Pour certains autochtones, le capteur de rêve est donc un des éléments qui permet de vivre ou de survivre grâce aux revenus de l'artisanat. Il leur permet aussi de faire survivre leur culture en l'affirmant par un objet qui est devenu un symbole autochtone un peu générique, voire mondialisé. Et c'est tout le paradoxe du capteur de rêve.
Le capteur de rêve est connu et reconnu comme un symbole autochtone. Je me suis dit, eh bien, est-ce que le fait que ça devient commercialisé, ça va aider à sa survie dans l'histoire culturelle mondiale?
C'est un double désir qu'alimente ce mouvement vers le développement touristique. On veut affirmer notre identité au monde, on veut s'intégrer à la société contemporaine. Mais le risque de la touristification, c'est le folklore, le commerce désenchanté.
On ne voit plus les subtilités. On est les Indiens dans les plaines avec des plumes sur la tête, avec des capteurs de rêve. Tu sais, où est-ce que tu mélanges toutes sortes de symboles de différentes nations? Tu ne fais pas attention aux subtilités des Premières Nations. Donc, moi, je suis Ninou et traditionnellement, on n'avait pas de capteurs de rêve, mais on avait quand même d'autres objets traditionnels qui étaient importants. Mais ça, on les voit pas valorisés dans l'œil. La personne qui achète un capteur de rêve, si on voit un capteur de rêve.
Le touriste recherche l'authenticité. L'authenticité, ça peut être compliqué, surtout quand les manufactures chinoises se sont mises, elles aussi, à faire des capteurs de rêve.
Pour Mélissa Moline-Dupuis, vaut mieux en rire que d'enrager.
C'est kitsch aussi. Moi, j'achète des capteurs de rêve roses tout le temps, parce que ça me fait rire. Je trouve ça super kitschy. J'ai d'ailleurs la performance artistique, puis mon personnage artistique est kitsch. C'est vraiment... Je porte un costume, tu sais, en grosses parenthèses, un costume traditionnel de femme autochtone, mais il est rose, c'est fait avec la cuirette de char. Et mes boucles d'oreilles, c'est deux gros capteurs de rêve que j'ai pris. C'est comme des porte-clés qui vendent pendant le temps de la fête du Canada. Tu sais, le temps de la laisseuse de rêve, la fête du Canada. Le jour de la fête du Canada, ils sortent les inukshuks en plastique puis les capteurs de rêve en porte-clés. Et là, quand c'est les roses, je les achète, là, puis je m'achète des paires de boucles d'oreilles géantes. Écoute, je m'assomme avec quand je tourne la tête. C'est des capteurs doubles, là, ça, c'est vraiment gros. Puis je les porte comme boucles d'oreilles, mais ça c'est tellement ironique. Mon costume est tellement ironique que le monde catche un peu que c'est poussé. Ça, c'est. Tu pousses un peu l'idée préconçue des Premières Nations. Fait que, mais c'est ça, ça reste que c'est des éléments qui appartiennent à la culture, mais c'est une simplification aussi de la culture. C'est comme aller prendre ce qu'on peut puis digérer ça parce que c'est du McDo culturel, dans le fond. On porte pas tous les mêmes vêtements, mais il y a toujours un truc qui va venir réunir tout le monde. Et là, je pense que le capteur de rêve, c'est l'équivalent de la paire de jeans.
Yeah. Pendant que le Québécois typique s'éveille du long engourdissement hivernal, la nature, elle aussi, sort de sa torpeur. Mais comment ces cycles de dormance et d'éveil printanier se passent-ils à l'intérieur? Pour ça, on est allé voir au Biodôme de Montréal.
Bien, mon nom, c'est Eddie Persan. Je suis animateur au Biodôme.
Comment ça se passe à l'automne dans les rabillères?
Vers la période du mois de novembre, on va diminuer la luminosité dans les rabillères. C'est ça qui va, en fin de compte, faire que les arbres et les plantes vont rentrer en dormance. Donc, c'est l'effet du changement de la photopériode. On baisse la température en bas de 10 degrés Celsius. Donc, souvent, on pense que le froid, que les arbres, en fin de compte, ont besoin de froid, mais c'est pas vrai. Ils ont juste besoin d'avoir une période en bas de 10 degrés Celsius. Donc ici, on va le maintenir durant l'hiver autour de 4 à 5 degrés. Il ne faut jamais augmenter au-dessus de 10 degrés Celsius, sinon il va y avoir un nouveau mouvement de la sève qui va des racines vers le tronc. Et c'est suffisant durant à peu près une dizaine de semaines, une douzaine de semaines. Là. Alors, fin de l'hiver, 28 février, 1er mars, début du printemps.
Est-ce que c'est difficile de contrôler la lumière artificielle par rapport à la lumière naturelle?
Oui. Alors, au niveau de la bâtisse, l'ancien vélodrome, donc il y a une partie de lumière au niveau du toit qui passe. Donc, il y a des senseurs qui sont en haut qui vont calculer la quantité de lumière qui pénètre à l'intérieur de la bâtisse. Et nous, on va compenser avec notre système de lumière. Ça va donc recréer les mêmes ondes un peu que le soleil. Donc, c'est tout se fait par informatique. La quantité de lumière qu'il va y avoir dans l'écosystème est la même qu'à l'extérieur. Si on en aurait plus, il pourrait y avoir un problème de croissance, donc les branches seraient cassantes.
Est-ce qu'il y a des espèces qui doivent entrer en hibernation ou pas?
Ici, on en avait. Avant, on avait les wawarons qui passaient tout l'hiver en dormance. Là. Au printemps, on les voyait réapparaître, mais maintenant, on n'en a plus. Ils sont tous décédés ou disparus. Alors, sinon, dans le cas des tortues, rendu en automne, on va les prendre, puis on va les mettre dans les frigidaires en bas, puis ensuite, on va les ressortir, puis on va les remettre dans l'écosystème. D'ailleurs, ça devrait pas être long avant qu'on les remette. Là.
On va les sortir du frigidaire.
Exact. Sinon, tous les autres animaux, ils ont tout un rythme de passage entre les saisons qui varie. Donc, ils n'ont pas la même façon d'être. Alors, par exemple, les castors, en automne, sont plus actifs durant l'après-midi. Ils font leur réserve de bouffe. L'hiver, ils sont moins actifs, on les voit moins. L'été, au printemps, on les voit plus parce que c'est le printemps, il y a une effervescence, la période d'accouplement. Puis donc, il y a beaucoup d'animaux qui sont excités. C'est une période d'excitation ici.
Ça se sent. Là.
Ça se sent, oui. Tu le sens aussi, hein?
Oui, oui, oui.
On va voir un changement de comportement dans les animaux. Alors tout de suite, les oiseaux vont commencer à chanter, ils vont commencer à se courir après. Les mâles vont se battre pour les femelles. Et même s'ils n'ont pas de femelles, ils vont se battre pareil. Alors, ensuite, tu vas avoir... là, on peut entendre le lynx, d'ailleurs, au loin. Alors ça, c'est le mâle lynx qui est en train d'exprimer son amour pour sa femelle.
Par rapport au court succès, mettons, de reproduction rendu au printemps de telles espèces, est-ce que vous avez quand même des taux qui sont comparables à ce qui se fait dans la nature?
Quand on regarde le comportement des animaux, on regarde la croissance des plantes, le fait aussi si les animaux se reproduisent, s'ils mangent bien, s'ils ont un bon poil, ça veut dire que tout va relativement bien. Maintenant, il y a 20 ans, il y a des animaux qui s'adaptaient mal là, ou pas très bien, mais en général, les animaux se sont très, 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 très bien acclimatés, comme par exemple les lynx, c'est un jeune couple. Donc, on a eu un bébé.
Pour la première fois?
Pour la première fois, oui. Ils sont juste ensemble durant la période d'accouplement. ce qui stimule l'accouplement, parce que quand ils sont tout le temps ensemble, bien, ils sont moins portés à s'accoupler. Le taux de succès de l'accouplement devrait être encore plus grand. Ouais, ils s'ennuient.
Bon réveil du printemps.
Pour Dans le champ lexical cette semaine. Pour vous emmener jusque dans vos oreilles cette émission, plusieurs personnes n'ont pas beaucoup dormi. Ces personnes sont Christiane Campagna, Joanie Larue, Nadine Mathurin, Mathieu Charlebois, Éric Sanson, Sarah Champagne, Caroline Larocque-Allard et Dominique Charon. Vous pouvez retrouver nos anciennes émissions et même celles qui viennent juste de finir et déjà en balado au www.danslechamplexical.com. On est également sur iTunes et on est sur Facebook. Vous avez juste à nous chercher, on n'est pas trop difficile à trouver. La semaine prochaine, on tourne autour du mot « don ». En attendant, restez sur les ondes de CIBL.